Chelou.
On va parler des grands projets immobiliers de l'OPT dans ce journal. On ira à Tehaupo où on se pose la question des urgences aux Jeux Olympiques et puis direction les champs en fin d'édition, mais les champs bio. Et ce journal, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
On commence par l'OPT qui va devoir revoir certains projets.
Et un en particulier, celui du vaste ensemble immobilier que l'Office prévoyait de construire sur Prince-Sinoy. Un projet qui remonte à l'année 2000, quand l'établissement public avait acheté le terrain toujours vierge situé entre Easy Market et Hyper Brico. L'idée était d'y déplacer son siège, aujourd'hui situé à Faréouté, d'y accueillir plusieurs services, mais aussi de construire et de vendre deux étages du futur immeuble au syndicat de promotion des communes, le SPC. L'Office s'apprêtait à lancer les premiers appels d'offres pour les fondations. C'était sans compter sur la nouvelle équipe gouvernementale qui a voulu réexaminer le projet et qui a demandé à l'OPT de revoir sa copie. C'est ce qu'explique la ministre en charge de la fonction publique et des télécommunications, Vanina Krolla.
On a décidé au conseil d'administration de redimensionner le projet que pour les besoins de l'OPT. Le projet n'était plus viable financièrement. Les accords que l'OPT a pu avoir avec les bailleurs de fonds ne tiennent plus. Le projet avait été estimé à 11,3 milliards. Et puis finalement, avec l'augmentation des coûts, on est à 12,9 milliards, donc 1,6 milliard de plus, dont 500 millions de plus pour la maison des communes.
Une maison et un centre de formation et de gestion du syndicat de promotion des communes que le gouvernement veut donc séparer du futur siège de l'OPT pour revoir ses dimensions à la baisse. Alors forcément, du côté des communes, on tente de sauver son projet en proposant par exemple de racheter une partie du terrain pour faire une construction à part. Sauf que du côté de l'exécutif, on voit un autre problème, la concentration des administrations près du centre-ville. Il est vrai que l'OPT à elle seule prévoyait d'abriter 500 agents sur Prince-Sinoy et le nouveau siège promet d'attirer beaucoup de passages au risque d'encombrer davantage la circulation à Papeete. Alors quel avenir pour ce grand projet? Tout dépendra du prochain conseil d'administration de l'Office à la mi-septembre, durant lequel la direction doit présenter une nouvelle mouture réduite de ce plan immobilier. Un conseil d'administration doit être plus globalement discuté l'avenir de l'Office dans un contexte de déficit très important.
Aujourd'hui, avec les résultats de 2022 qui sont encore estimés, ça s'élèverait à 6 milliards de déficit cumulés sans les subventions accordées par le pays depuis 2010. Ça fait beaucoup et donc forcément, on doit réagir. Et revoir les missions, l'organisation, la manière dont l'OPT est organisée aujourd'hui, avec donc une holding et des filiales, sans qu'il y ait une distinction entre les services publics exercés par l'OPT pour le compte du pays. Tout est mélangé, c'est un peu compliqué à voir de quelle est la part dans les activités de l'OPT qui relève du service public et celle qui relève du service concurrentiel.
Voilà, lors de ce conseil d'administration de la mi-septembre, chaque directeur de filiale de l'OPT devra présenter son bilan et son plan de redressement financier. Vanina Krolla travaille aussi au remplacement du PDG Jean-François Martin qui a annoncé son intention de partir à la retraite le 31 décembre. La transition doit être bonne car les enjeux sont importants, précise la ministre. 1300 Polynésiens sont aujourd'hui employés par l'OPT.
Et on parle de ce terrible fait divers à Taravao.
Et oui, c'est Haïti Info qui s'en fait l'écho. Ce matin, une femme de 39 ans est décédée ce week-end après avoir été attaquée par son compagnon avec une bouteille en verre. C'est l'homme âgé de 79 ans qui a déjà été condamné par violence qui s'est présenté à la gendarmerie pour signaler les faits. Une autopsie doit être réalisée sur le corps de la victime, mère d'un nourrisson de 1 mois. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de Phare.
Et on reste à la presqu'île, mais pour parler de Jeux Olympiques.
Oui, l'épreuve de surf de 2024, vous le savez, s'organise. On a parlé il y a quelques semaines, du dispositif de sécurité des JO déjà réglé comme du papier à musique. Une partition reste toutefois à écrire, celle du dispositif d'urgence médicale. Les autorités le savent, des accidents peuvent facilement arriver dans les fan zones qui doivent rassembler jusqu'à 15 000 spectateurs à Papeete ou Papara pendant l'épreuve. Les accidents peuvent aussi arriver, bien sûr, sur le site de compétition. 48 surfeurs seront alignés aux JO dans la passe de Hawaï pour tenter de dompter une vague dont personne n'ignore la dangerosité. L'Australien Ethan Ewing l'a rappelé à ses dépens juste avant la dernière Tahiti Pro, en se faisant prendre dans la mâchoire de Tehaupo. La Water Patrol a récupéré le numéro 2 mondial australien tout près du récif avec d'importantes douleurs au dos. Écoutez.
Il a été amené à la pointe, ensuite il a été pris en charge et il a dû faire le trajet par la terre, avec une route qui est encore aujourd'hui un peu chaotique, un passage de guet, rivière. Puis après il a été amené vers l'hôpital de Taravao et c'est à partir de là qu'on a pu le soulager parce qu'il n'y avait pas d'option de soulager le patient avant ça. Et ensuite il a été transféré au Taonnet pour une imagerie. Et je comprends qu'il se pose des questions sur la réponse qui a été une réponse qui n'a pas été optimale, mais parce qu'il n'y avait pas le dispositif.
Alors rassurez-vous, Ethan Ewing s'en sort avec quelques côtes cassées seulement, mais cela aurait pu être bien plus grave. C'est ce qu'explique le docteur Tony Tekwatawa qu'on vient d'entendre. Le chef du service des urgences du CHPF avait été interrogé directement par la ministre nationale des Sports sur cet accident. Et avec les organisateurs, il avait assuré que le plan de prise en charge serait bien plus efficace lors de l'épreuve olympique. L'idée est de créer un dispositif propre au jeu qui ne pèserait pas sur l'activité quotidienne de l'hôpital. Des renforts seront donc déployés au SAMU. Un hélicoptère dédié devra se tenir prêt à faire le trajet entre la pointe Faremaura et le CHPF. Les discussions sont encore en cours sur les détails et le financement de ce dispositif, mais l'hôpital demande déjà à profiter des JO pour améliorer les urgences tahitiennes à l'année. Pourquoi ne pas garder, après l'épreuve, un hélicoptère entièrement dédié au SMUR? Pourquoi ne pas aussi laisser sur place les listations qui seront aménagées au PK0 lors des JO?
Ça reste quand même un lieu qui reste dangereux, JO ou pas JO. Ça reste aussi un endroit où il y a la WSL qui passe tous les ans. Donc ça peut être un dispositif qui peut être mis en place. Et ça va médicaliser d'ailleurs plus facilement toute la zone qu'il y a entre Vairao et puis le Fenouaïchele.
Voilà le docteur Tony Tekwatawa, urgentiste, dont l'interview est à retrouver sur notre site radio1.pf.
Des bonnes nouvelles du côté du tourisme.
Et oui, les chiffres se suivent et se ressemblent de ce côté-là, mais ça fait toujours bien de les rappeler. Le tourisme, moteur économique du Fénois, se porte très bien. D'après le dernier tableau de bord de l'ISPF, 55 200 voyageurs sont arrivés au Fénois au premier trimestre 2023. C'est 49% de plus que l'année précédente et c'est un chiffre qui est aussi en augmentation par rapport à 2019, une année de référence dans le secteur. Le nombre de nuitées touristiques bondit même de 18% entre l'avant et l'après-Covid et le nombre de chambres d'hôtel est 4% plus élevé, alors même que certains établissements ont fermé leurs portes pendant la pandémie. Bref, voyant au vert sur la filière qui peut en plus compter dans les mois à venir sur la reprise des vols directs vers le Japon et sur la réouverture toujours à dater de certains hôtels. En attendant, 2023 est bien parti pour fixer un nouveau pic de fréquentation touristique en dépassant ou en approchant des 250 000 visiteurs.
Ouais, si on partait dans les Faapu pour finir.
Eh bien, c'est possible ce week-end grâce aux portes ouvertes organisées donc ce samedi 2 et ce dimanche 3 septembre par l'association Biofetia. Biofetia, c'est l'organisme qui certifie les productions biologiques au Fénois à l'aide du label Biopacifica. Et il s'agit justement de mieux faire connaître les agriculteurs inscrits dans cette démarche. On écoute Vaira Ebb, une des porte-parole de l'association.
Les objectifs des portes ouvertes des Faapu Bio, c'est vraiment de faire découvrir l'agriculture biologique au grand public et de créer une première relation entre l'agriculteur et le consommateur. Les consommateurs peuvent avoir certains préjugés au niveau de l'agriculture biologique. Les produits certifiés biologiques peuvent paraître chers, mais du coup cet événement, ça permet de montrer tout ce qu'il y a derrière.
Alors, 4 exploitations sont à visiter ce week-end. Vous pourrez aller voir Alexandrina Mataravao qui cultive sur une parcelle familiale des aubergines, des haricots longs, du maïs et des concombres. Il y a aussi Jean-Baptiste Tavanet à Papeari, Touani Pujibé à Mataya qui cultive du taro, des patates douces, du manioc et des fruits. Et Augustin Vonken de Vairao qui produit entre autres des tomates, des asperges et qui élève des poules. Visite guidée seule ou en famille, donc vente de produits bien sûr, mais surtout rencontre avec ses professionnels.
L'agriculteur vous accueillera sur le Faapu, il vous fera toute la visite de l'exploitation en vous expliquant les pratiques utilisées et en vous expliquant un petit peu l'histoire du Faapu, comment il a démarré et puis son évolution aussi par la suite.
Voilà, les inscriptions se font donc par mail à info@biofetia.pf ou par téléphone au 87 37 49 35. A noter que l'agriculture bio gagne du terrain au Fénois. L'association comptabilise en août 2023 400 hectares de production certifiée, 215 adhérents et 111 dossiers garantis Biopacifica, soit le double de l'année 2021. En avant de clore ce journal, un rendez-vous à noter un peu plus tard dans la matinée. Mwetei Brotherson sera l'invité de la rédaction en direct sur notre plateau. Le président répondra à nos questions sur son bilan des 100 jours, mais surtout sur le cap qu'il a fixé à son gouvernement pour les prochains mois. Rendez-vous donc à 11h30 en direct sur Radio 1 et Thierry FM. Pour ma part, je vous retrouve pour la revue de presse de 7h30.
Merci beaucoup, Charlie.